C'est parti, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode solo que je vous propose. Déjà, merci à tous et à toutes pour votre accueil extraordinaire de mon premier épisode solo. J'ai reçu énormément de messages, je sais pas, hyper touchants, entre ceux qui ont rebondi sur certaines choses que j'ai partagées, mais aussi sur ce que le podcast avait eu comme impact sur eux jusqu'à maintenant, et le fait qu'ils étaient hyper contents de voir que ça évoluait aussi vers vers ces épisodes où je prends le micro pour partager mon regard, mon expertise, mes expériences. Voilà, j'étais hyper touchée par tous les retours que vous avez faits, donc merci beaucoup et ça m'encourage à continuer. Vous voyez, je prends là aujourd'hui le micro avec une confiance que je ne sais pas si je l'aurais eu spontanément de continuer comme ça, si ça avait été un vide intersidéral après la publication de cet épisode. Et voilà, là, le fait qu'il y ait eu à la fois autant d'écoute et à la fois des retours aussi, je ne sais pas, encourageants, généreux, élogieux, eh bien, ça fait que je suis contente de reprendre le micro toute seule aujourd'hui, toujours avec des petites notes sur mon carnet, qui est un carnet qui m'avait été donné par le CNB d'ailleurs. Donc, ce podcast n'est pas sponsorisé par le CNB, mais on les salue parce que ce carnet porte mes petites notes. J'ai décidé de ne pas scripter, pour une question de rapport temps passé sur le podcast, comme vous avez compris. C'est un peu mon grand sujet d'être plus minimaliste dans ma manière de travailler, en essayant de garder un bon niveau de qualité, évidemment. Et puis aussi pour maintenir une forme de spontanéité et de flux dans la manière dont je vous parle, puisque bon, je pense, quelqu'un d'assez structuré. Ceux qui ont suivi mes formations voient que je pense notamment à mes formations en e-learning que j'ai faites avec SideQuest, et on salue encore une fois les amis de SideQuest. Donc formation tant sur la marque personnelle que sur la politique d'honoraires, peuvent voir qu'il y a un parcours pédagogique qui est extrêmement pensé pour que, voilà, chaque étape arrive bien au bon moment de la réflexion, et qu'il y ait un cheminement intellectuel qui soit très logique, et que chaque brique soit posée, voilà, au bon moment, pour qu'au moment d'aborder le sujet suivant, eh bien, les briques aient été posées en amont et que le mur soit assez solide pour venir travailler sur cette nouvelle information. De façon assez naturelle, j'ai aussi cette pensée assez structurée. Je pense que quand j'étais avocate, j'aimais les consultations et les conclusions en général bien ordonnées, pas forcément concises. Je ne sais pas si la concision est ma première qualité, mais voilà, en tout cas, des informations qu'on ne retrouve pas à 10 endroits différents dans les conclusions, parce que le plan a été pensé de façon bien comme il faut. Mais c'est vrai que ça part souvent d'une forme d'arborescence, vous voyez, et donc voilà, je vais essayer de mélanger, on va dire, ce plan, et de m'autoriser des digressions, notamment pour vous donner des exemples. Donc pareil, je suis assez preneuse de vos feedbacks sur la manière dont je déroule ces épisodes solo avec plus d'expertise. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, moi, est un sujet que j'adore, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle quand bien même j'arrête de développer sa clientèle, en tout cas la dernière session est en cours, je garde une offre de consulting ciblée sur ce sujet-là, parce que je trouve que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est l'offre, et ça va avec le positionnement. Et je voulais vous parler de ça, et vous allez voir, je vais le broder d'exemples, notamment de l'exemple d'Iris et Thémis, parce qu'on est vraiment en test and learn, et c'est un peu toute la leçon aussi du podcast, de cet épisode que je vous propose. Donc j'ai brodé ça d'exemples d'Iris et Thémis, mais aussi d'exemples avec d'autres créateurs et d'autres entrepreneurs, pour illustrer mon propos, parce que tout ça se complète. Donc votre offre, c'est, on va dire, ce qu'il y a. Si vous êtes bien évidemment avocat dans une dynamique libérale, en tout cas dans une dynamique de développement de votre activité, se pose donc la question de vendre vos services, de vendre votre expertise. Et en fait, ce que vous vendez, c'est moins votre expertise et c'est beaucoup plus votre offre. Et l'offre, en réalité, c'est votre manière de résoudre un problème. Globalement, votre client, il vient moins pour votre expertise en droit de la famille que parce qu'il divorce, ou il a un problème de garde d'enfant et il y a un conflit lors d'une séparation et il faut se mettre d'accord sur je sais pas quoi lié à la garde d'enfant. Et du coup, il a besoin d'une solution, que ce soit parce que un divorce, ça se termine. Et donc, il faut terminer ce divorce et ça implique l'intervention d'un avocat à un moment. Et en fait, votre client, il vient d'abord et avant tout vous chercher pour ça. Alors, bien évidemment, en chemin, il se trouve que ça l'arrange, au-delà de l'aspect réglementé des choses, de travailler avec une personne qui est expert du sujet, qui est experte du sujet, une personne, pour être bien accompagnée, etc. etc. Mais l'enjeu final, c'est d'abord et avant tout la résolution d'un problème donné. Et donc, globalement, cette résolution d'un problème donné, ça fait que vous passez d'un point A à un point B. Vous amenez votre client à cheminer d'un point A où il a un problème, il est dans une situation donnée, à un point B. Et si tout se passe bien, au stade du point B, globalement, où il n'a plus de problème, où il a avancé dans son problème. Mais en tout cas, votre offre, c'est ça. Donc évidemment, typiquement, l'idée, c'est pas de mentir sur le point B. Vous voyez, je vous donne ici l'exemple d'Iris et Thémis. Nous, Iris et Thémis, on a une obligation de moyens par rapport. Donc, on est une solution de recrutement, dans le sens où on aide les avocats à recruter. Mais par contre, on s'est positionné, et je vais revenir dessus juste après, on se positionne avec une obligation de moyens, c'est-à-dire que ce que nous, on fait pour nos clients, c'est d'augmenter leurs chances de recruter, parce que on conçoit des offres qui sont exhaustives, qui répondent à toutes les questions que se posent les candidats. Donc l'information qui est donnée est vraiment hyper qualitative, parce que on fait aussi une présentation de la personne qui recrute et Dieu sait que le manager importe autant que le contenu du travail. Donc globalement, pour qui est-ce que vous allez travailler, pour qui est-ce que la personne recrutée va travailler, on la présente, on met des photos parce que c'est tout de suite plus sympa, on met aussi des photos des locaux parce que c'est quand même quitte à passer 10 heures par jour quelque part, autant que ce soit plutôt joli et en tout cas pouvoir se projeter dans cet endroit. Donc voilà, on fait toute cette présentation et en fait tout ça, ça relève plus de la catégorie communication RH, communication ressources humaines, même si la finalité c'est le recrutement. Donc on fait tout ce travail de com et puis ensuite évidemment, et c'est toujours de la communication, on diffuse ces offres dans différents réseaux, en tout cas auprès d'une audience qualifiée, de façon à faire savoir auprès du public cible il y a une offre à pourvoir en droit social au sein de l'équipe de Madame Michu, ce qui permet globalement de faire connaître auprès des potentielles personnes qui chercheraient une offre de collaboration en droit social que là il y a une opportunité auprès de cette personne. Et donc voilà, nous ce qu'on fait c'est ça, mais encore une fois il n'y a pas d'obligation de résultat, dans le sens où on n'a pas notre rémunération, elle est attenante à tout ce travail de communication qu'on fait pour nos clients, la rédaction de la page recruteur, le fait d'organiser un shooting pour avoir des belles photos d'eux et de leurs locaux et de leur équipe. Le fait d'aller chercher des premiers témoignages collaborateurs ou anciens stagiaires et de leur permettre d'aller en chercher plus d'ailleurs pour rassurer les candidats sur le fait que a priori c'est des personnes plutôt saines d'esprit, le travail de rédaction de l'offre et puis ensuite le travail de diffusion, ça c'est ce pour quoi on est rémunéré de façon forfaitaire. En revanche, s'il y a effectivement un recrutement qui est conclu, notre rémunération ne dépend pas de la conclusion de cette de ce recrutement. Contrairement à un certain nombre de chasseurs de têtes, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui prennent un fixe en plus de prendre un variable, mais il y a un certain nombre de chasseurs de têtes qui ne fonctionnent que à la rémunération variable, c'est-à-dire si jamais ils réussissent à recruter pour un cabinet, eh bien dans ce cas-là, ça déclenche la rémunération. Ce que les avocats sont en principe interdits de faire, puisque vous savez que le pacte Cotality s'est interdit déontologiquement aux avocats. Bref, donc en tout cas, l'idée, je reviens sur cette histoire de l'idée, c'est pas de mentir sur le fin de cette transformation, c'est-à-dire le résultat vers lequel vous amenez vos clients. Nous, nos clients, on leur dit pas qu'on recrute pour eux, on leur dit qu'on augmente leurs chances de recruter. Alors bien sûr, on pourrait mentir, etc., etc., et dire mais si on recrute pour vous et tout. La vérité, c'est que on n'a pas 100% de réussite sur la diffusion de nos offres. On a 50% de réussite sur la diffusion de nos offres, c'est-à-dire qu'une offre sur deux qu'on publie est pourvue. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on est moins cher. C'est-à-dire que nécessairement, si on avait 100% de réussite sur nos recrutements, on serait globalement 5 fois plus cher que ce qu'on est aujourd'hui. Donc il y a toujours, vous voyez, en fait globalement plus votre prestataire, plus votre fournisseur prend un risque et plus sa rémunération elle est importante parce que il a une prise de risque importante et le risque ça se rémunère, c'est la base de l'investissement, le risque ça se rémunère et donc on prend un risque qui est mesuré parce que on a une rémunération fixe dès le départ. En revanche, et le prix tient compte de ça. En revanche, derrière, on n'offre pas une garantie de résultat, mais on augmente les chances. Et manifestement, ça marche, en tout cas de façon satisfaisante pour un certain nombre de clients, parce que on a quand même une offre sur deux qui est pourvue. Quand elle est pourvue en moins de 2 mois, globalement. Et puis du coup, nos clients qui recrutent, ça leur a coûté entre aujourd'hui, à l'heure où j'ai vu ce podcast, 1 200 € et 2 500 € hors taxe, alors que ce même recrutement aurait pu leur coûter 10 000 € et plus s'ils étaient passés par un chasseur de tête. Donc, reprenons ce sujet d'offre. Vous prenez votre offre et vous amenez votre client d'un point A à un point B. C'est ce que j'appelle, moi, le chemin de la transformation. En fait, vous intervenez, vous, votre rôle, en fait, comme on va dire comme fournisseur, comme artisan, comme personne qui travaille pour quelqu'un d'autre, c'est de tenir la main de votre client dans tout ce chemin de la transformation avec un degré d'implication qui va évidemment être différent en fonction de votre offre, justement. Et on en revient au sujet du positionnement, etc. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait tenir la main de votre client de façon extrêmement minimaliste. Mettons que vous faites du droit commercial et que vous en avez marre que vos clients viennent acheter leur template de contrat de sous-traitance dans un certain secteur auprès de Legal Tech, qu'on citera pas, et vous vous dites moi aussi je vais faire un template de contrat, mais par contre le template de contrat, c'est autant c'est mon template, autant il n'y a pas d'intervention, les gens ils achètent le document tel quel, mais moi j'ai pas d'intervention intellectuelle dessus, je n'y passe pas de temps, je fais pas de revue du contrat, je fais pas de relecture, j'ai pas de brainstorming avec mon client pour s'assurer que c'est bien le bon contrat dont il a besoin, etc., etc. C'est juste un client qui a besoin de tel type de contrat, en fait il me l'achète à moi plutôt que de l'acheter à quelqu'un d'autre. Et puis vous pouvez aussi avoir évidemment l'offre qui a un positionnement beaucoup plus entre guillemets supérieur, plus haut de gamme, qui est une offre clé en main où votre client c'est du sur-mesure et vous allez lui drafter le client dans la dentelle et vous faites une réunion de brainstorming avec lui pour tout couvrir sur le contrat et puis ensuite vous rédigez et puis un aller-retour et puis voire plusieurs allers-retours, voire autant d'allers-retours que nécessaire jusqu'à ce que le contrat soit bon. Et puis ensuite vous prenez de ces nouvelles sur l'implémentation du contrat et vous avez un SAV et vous dites quid après vos premières négociations et voire vous incluez des modifications du contrat post post-première négociation et retour d'expérience sur l'utilisation de ce document. Et ça, ça peut être une offre à part entière aussi. Voilà, donc première chose, ce sujet qui est vous avez votre offre, vous résolvez un problème, vous le faites en offrant une solution et votre solution, elle peut être plus ou moins intégrée. Moins intégrée, c'est le template de contrat et plus intégrée, c'est le contrat dans la dentelle avec tout ce que je vous ai indiqué du brainstorming initial jusqu'au SAV post première négociation sur la base du document pour pouvoir ensuite en améliorer la rédaction avant de laisser le contrat en autonomie, le client en autonomie avec son contrat. Alors une bonne offre, c'est une offre qui répond, c'est pas n'importe quelle offre. Une bonne offre, en tout cas d'un point de vue entrepreneurial, c'est une offre qui répond à un problème, ce qu'on appelle dur. Dur, c'est douloureux, D de douloureux, U de urgent et R de reconnu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Eh bien, on veut dire que globalement, vous comme entrepreneur, vous avez des chances de réussite qui sont d'autant plus importantes que le problème que vous résolvez pour votre client est donc dur, c'est-à-dire que pour lui, est douloureux, c'est-à-dire que le fait d'avoir cette épine dans son pied à ce client, c'est pénible pour lui au quotidien. C'est urgent dans le sens où c'est non seulement pénible, mais en plus c'est pénible et il a vraiment besoin de le résoudre à court terme. Et c'est reconnu dans le sens où le client, il est conscient qu'il a ce problème et en plus il est conscient qu'il y a des solutions à ce problème. Donc en fait globalement il a juste à tendre la main pour cueillir le bon fournisseur de solutions pour lui. Pourquoi c'est important ? Et ça je voudrais qu'on s'attarde dessus. C'est important parce que des problèmes, il y en a partout. Tout le monde a plein de problèmes. Maintenant, tout le monde n'a pas tout le monde ne va pas investir et du temps et de l'argent pour résoudre son problème. Et le truc, c'est que vous, comme entreprise, comme entrepreneur, ce qui vous intéresse, c'est pas juste de résoudre des problèmes, c'est que les gens vous payent pour que vous résolviez leurs problèmes. Donc si ces personnes-là, le problème, il est là, ok, mais en fait, elles préfèrent vivre avec leurs problèmes que vraiment s'en occuper, ça va vous poser un problème en termes de vente. Alors bien évidemment, vous pouvez faire plein de choses d'un point de vue marketing pour que les gens prennent conscience qu'ils ont un problème, prennent conscience que c'est un problème important, prennent conscience d'à quel point ce problème en réalité est douloureux pour eux et à quel point ils ont une urgence à l'adresser, ok. Et vraiment, c'est un travail que vous pouvez, d'ailleurs que vous allez faire, que ce problème soit dur ou qu'il ne le soit pas réellement, ça fait partie de tout votre travail entrepreneurial que de marketer ça, on va dire. C'est le travail du marketing, de faire cet emballage qui fait que votre audience, la cible que vous visez, elle prend conscience de son problème, elle prend conscience de la douleur que c'est pour elle, elle prend conscience de l'urgence qu'elle a à le résoudre, elle prend conscience de tout ça. Mais en réalité, la meilleure offre, c'est quand même une offre qui répond à un problème qui est douloureux. C'est-à-dire que vraiment, votre prospect, votre client, il n'en peut plus de ne pas y arriver. C'est urgent, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre de continuer à attendre. Et c'est reconnu, il en est conscient. Et donc, vraiment, c'est le terrain et le terreau le plus viable, le plus prometteur pour que vous arriviez et que vous disiez voilà. Vous avez un problème, j'ai une solution, on travaille ensemble en fait. Et j'insiste là-dessus parce que sur les deux choses. La deuxième, c'est la question de la douleur et la troisième, c'est c'est tout ensemble, donc je vais pas distinguer. La question de la reconnaissance. Vous connaissez peut-être la théorie selon laquelle il y a 5 degrés de conscience d'une audience par rapport à un problème donné. Vous avez la cible qui est en anglais, on va dire unaware, donc qui n'en est pas consciente. C'est une cible qui n'a juste pas conscience de son problème et donc elle a nécessairement pas conscience des solutions qui vont avec. En fait, elle s'est juste jamais posé la question. Cette cible-là, si vous vouliez l'attaquer, il faudrait à la fois l'éduquer sur son problème et en plus l'éduquer sur les solutions et plus particulièrement votre solution qui permet de résoudre son problème. Donc vous partez de très loin, on va dire que c'est vraiment une cible qui est froide, mais froide au possible. Vous voyez, il faut vraiment tout réchauffer, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle a un problème. Et puis une fois qu'elle aura conscience de son problème, elle se dira « Ok, ouais, en fait, c'est vraiment un problème, donc du coup, il faut que je trouve une solution à mon truc. » Donc, et là, elle part en recherche de solutions, etc. Et puis, bon, en fonction de sa rapidité de mise en mouvement et de sa rapidité de prise de décision, ça peut vous rajouter un certain temps. Donc, ça, c'est le degré zéro de la conscience. C'est le degré zéro, le premier niveau qui correspond au degré zéro, c'est-à-dire l'absence de conscience, ne serait-ce que du problème. Et puis ensuite, vous avez la personne qui va être... problème aware, c'est-à-dire que elle a conscience qu'elle a un problème, elle a conscience que en fait il faut que ça change, qu'il faut que quelque chose change, mais par contre elle n'est pas encore consciente des solutions et encore moins de votre solution à vous personnellement. Donc ça c'est le deuxième niveau. On a juste une conscience du problème. On a une personne qui se réveille au fait que elle fait pas ce qu'il faut ou il se passe quelque chose qui ne se passe pas comme il faudrait et qui en prend conscience et qui se dit ah tiens ce serait bien de rentrer dans une logique de changement. Je fais souvent le parallèle, ceux qui suivent ma newsletter le savent, mais il y a 2 ans, j'ai commencé un coaching budgétaire. Et ce coaching budgétaire, ça a été le passage à l'action. Mais en fait, avant ça, peut-être 1 ou 2 ans avant, j'avais commencé je pense que c'était 2 ans avant, j'avais découvert un podcast qui s'appelle le podcast Richissime de Delphine Pinon, qui à l'époque s'appelait... Budget chéri. Delphine Pinon, je vous en ai parlé dans mon premier épisode solo. Et en fait, ça a été, moi, mon introduction à la question des finances personnelles. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je ne savais pas gérer. Enfin, je savais pas. J'avais une intelligence financière qui était proche du niveau de la mer. Je ne savais pas gérer mon argent. Ça ne m'a jamais mis en surendettement ou des choses comme ça. Mais en tout cas, je ne savais pas particulièrement gérer mon argent. Je n'avais aucune notion de la différence entre l'épargne et l'investissement. Quid de l'investissement financier, les différents types d'investissement, les différentes stratégies, tout ça. Je tenais pas de budget, j'avais pas de vision sur mes dépenses, enfin tout ça était complètement flou. Et je me suis cultivée pendant 2 ans, et puis au bout de 2 ans, je me suis dit bon, en fait, manifestement, t'as beau avoir entre guillemets toute la théorie, tu ne passes pas à l'action, tu ne fais pas ce qu'il faut pour que les choses changent toi toute seule. Et donc début 2022, j'ai commencé un coaching budgétaire avec une entreprise de coaching. Et voilà. Et donc vous voyez, unaware, c'est on va dire la situation où j'étais avant de découvrir le podcast de Delphine Pinon. Problem aware, c'est quand et ça a été très rapide en fait, juste à la découverte du podcast de Delphine Pinon, après avoir écouté quelques épisodes, je me suis dit ah, mais en fait je suis tout à fait cette personne qui ne sait pas gérer ses finances. Et voilà. Et ensuite on arrive au troisième niveau de conscience, de reconnaissance, on va dire, c'est solution aware. Donc ça, c'est quand globalement, vous avez à la fois conscience du problème et en plus, vous avez identifié des solutions potentielles au fait de résoudre ce problème. Donc je reprends mon propre exemple sur cette histoire de finances personnelles. J'avais identifié que Delphine, elle avait un programme d'accompagnement, elle avait plusieurs programmes d'accompagnement d'ailleurs, elle avait aussi un petit e-book pour faire son budget tout seul, enfin voilà, elle avait plusieurs solutions. Et puis j'avais identifié aussi, par le biais de son podcast, une offre de coaching, donc pour le coup avec Delphine aussi c'était du coaching, mais c'était plutôt du coaching collectif, et j'avais identifié à travers son podcast, parce qu'elle avait fait intervenir quelqu'un, aussi une solution de coaching pour le coup individualisé, de suivi dans la remise à plat d'un budget et le fait de suivre pour s'engager dans le fait de respecter son budget, etc. etc. Donc j'avais identifié plusieurs solutions de Delphine, cette solution de cet autre prestataire. Qu'est-ce que j'allais dire ? Autre prestataire qui s'appelle Plénit Finance d'ailleurs et que je recommande, j'ai été hyper satisfaite de leur service et ça m'a changé la vie, et si vous allez les voir, dites-leur que vous venez de ma part parce que vous aurez une réduction. Et donc je vous dis ça, identification des solutions potentielles, et donc il y avait voilà, les offres de Delphine, les offres de Plénit Finance, et puis j'avais identifié aussi d'autres coachs et consultants et solutions diverses et variées sur des sujets comme ça de reprise en main de ses finances. Quatrième étape, c'est product aware. Donc là, vous avez conscience du problème, vous avez identifié des solutions spécifiques, un peu comme l'étape d'avant, mais vous avez commencé à creuser. Et par contre, vous avez un manque de visibilité encore sur exactement qui fait quoi, quelles sont les différences entre les différentes offres. Voilà, qu'est-ce qui distingue A de B, pourquoi travailler avec bidule plutôt qu'avec machin, et quelle va être la différence entre les différents types d'accompagnement. Donc voilà, et puis ensuite, most aware, c'est, pour vous c'est très très clair, si vous travaillez, si vous prenez telle offre d'accompagnement, ben, c'est du collectif, ça mélange du e-learning, plus des sessions live de questions-réponses, plus le coach qui est présent en WhatsApp tout le temps, plus je sais pas quoi, plus je sais pas quoi, versus la solution B, ben là, c'est pas du collectif, il y a que du suivi individuel, ça comprend tel type d'audit initial avec vous, et ça vous suit, et vous avez 3 rendez-vous par mois pour établir votre budget, et puis ensuite pour faire un point d'étape, et ensuite un troisième point d'étape, et puis comme ça, et puis machin, et puis le prix, c'est ça, ok ? Et donc là, vous êtes hyper consciente des différentes options et il vous reste plus qu'à choisir celle qui va vous correspondre le mieux par rapport à ben, votre situation, à votre mode de fonctionnement, à ce qui vous correspond le mieux et qui vous semble être le plus propice à résoudre votre problème dans votre budget. Je rajoute dans votre budget parce que évidemment ça a un énorme impact, hein, et parfois on aimerait bien pouvoir mettre tel budget pour résoudre son problème, mais en fait on ne l'a pas et donc du coup on va prendre une autre option qui est moins chère, qui est peut-être moins personnalisée, avec un suivi qui est voilà, on doit un peu plus faire de travail soi-même, y passer un peu plus de temps, y mettre un peu plus de sa propre huile de coude, mais c'est déjà ça et ça nous permet déjà de faire un pas en avant dans notre processus. Donc ça c'est, on va dire, la déclinaison du degré de maturité, des différents degrés de maturité de votre cible par rapport aux problèmes que vous résolvez et aussi aux différentes solutions possibles. Et c'est important d'avoir ça en tête. Pourquoi ? Parce que vous, comme expert, bah, vous avez une vision complètement biaisée de la situation. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de mon contrat commercial, de mon avocat en contrat commercial. Eh bien, l'avocat en contrat commercial, non seulement il est conscient du fait que, ben voilà, au moment où ça pète entre un client et son fournisseur, ben il faut faire. Enfin voilà, il y a un certain panel de solutions possibles, négociées, contentieuses, avec différentes stratégies possibles, etc. etc. Mais l'avocat en droit commercial, il rêve aussi d'avoir des clients qui viennent le voir en amont, d'avoir des clients qui, au moment où ils commencent à mettre en place une offre de service ou de fourniture de produits, et bien à partir de ce moment-là, paf, il déclenche le recours à l'avocat parce que comme ça, tout de suite, on fait le bon contrat et on met tout bien en place et comme ça, on se protège. Voilà. Et puis, si jamais il y a une crispation entre le client et son fournisseur pour une raison X ou Y, que dès que un premier sentiment comme une intuition que les choses sont en train de se crisper, ben hop, que le réflexe du client à ce moment-là, ce soit de décrocher son téléphone, d'appeler son avocat pour dire « Ah tiens, écoute, j'ai reçu ce mail de mon client, j'ai l'impression qu'il se passe un truc et tout machin, comment on fait ?» Ça, c'est le rêve de l'avocat en droit commercial, c'est-à-dire le fait d'arrêter d'être juste un pompier d'avoir des clients qui ont une maturité telle qu'ils prennent les sujets à bras-le-corps en amont, qui mettent en place la documentation juridique et contractuelle qui va les protégé et qui, en plus, quand il y a potentiellement une tension avec un de leurs clients, eh bien, vont avoir le réflexe assez en amont d'appeler leur avocat pour que on puisse avoir des solutions qui sont moins coûteuses, parce qu'on arrive moins en pompier, parce qu'on peut, il est encore temps de rétablir le dialogue, il est encore temps de prévoir des choses, il est voilà. En tout cas, c'est encore un moment qui est propice. Alors, bien évidemment, vous avez plein de clients en droit commercial, d'avocats en droit commercial qui ont pour client une cible qui est, elle aussi, experte et extrêmement mature. Par exemple, des avocats en droit commercial qui auraient pour client des entreprises, et pas juste des entreprises, mais aussi des entreprises avec une direction juridique ou un juriste, et encore mieux, un juriste qui a l'expertise du droit commercial. Parce que du coup, cette personne elle-même va avoir des réflexes en termes d'identification de quand est-ce que ça commence à puer et de quand est-ce qu'il faut, mettre en place des choses, en tout cas s'activer et contacter son avocat pour mettre des solutions en place. Donc là, c'est l'avocat qui a pour client une cible qui est en fait mature, experte, sensibilisé et qui donc a ce réflexe de l'avocat au bon moment et surtout a ce réflexe de l'avocat au moment où il faut quoi. Mais vous avez aussi plein d'avocats en droit commercial qui eux ont pour cible des entrepreneurs qui n'y connaissent rien dans le juridique et qui ont une maturité extrêmement faible en juridique parce que c'est leur première entreprise, parce que ils n'ont jamais eu de problème jusqu'à maintenant, parce que quoi ou qu'est-ce, et qui en fait n'ont pas du tout le réflexe avocat pour le contrat, pour je sais pas quoi. Et il y a deux choses possibles. Et d'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles, mais en revanche, les deux n'ont pas les mêmes résultats au même moment. C'est-à-dire que si vous êtes avocat en droit commercial et que votre cible, vous observez que c'est une cible qui est assez peu sensibilisée aux questions du droit, eh bien, il est fort probable que cette cible, elle vienne vous voir, non pas en amont pour prévenir des problèmes, mais au moment où elle aura une première difficulté qui peut lui coûter cher. Et en fait, c'est le moment où cette cible va se déclencher. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire toute une communication et vous pouvez avoir une communication 100% axée sur la prévention auprès de cette cible-là et vous dire « je vais éduquer mon marché à 300%, je vais éduquer mon marché pour qu'ils prennent conscience que c'est important qu'ils fassent des contrats en amont et pour qu'ils prennent conscience que ça les protège et que c'est bien et que c'est important et qu'ils vont économiser de l'argent en faisant ça ». Et puis, il est possible que vous fassiez ça et que 8 mois plus tard, vous n'ayez aucun client qui vienne vous voir pour mettre ça en place ou un ersatz, un pourcentage, mais qui en fait le rapport communication, investissement, marketing versus ROI, vraiment l'argent, le chiffre d'affaires que ça vous génère soit pas forcément favorable. Par contre, vous identifiez que vous, votre cible, cette même cible d'entrepreneur pas très éduqué en droit commercial, etc., par contre, le moment où elle vient vous voir, c'est le moment où il y a un client avec qui ça coince, le client veut pas payer et que l'enjeu, c'est pas 200 balles, mais que en fait, l'enjeu, c'est je sais pas combien, c'est 10 000 euros ou 5 000 euros. Et que là, par contre, elle se réveille, elle vous appelle en chouinant et elle vous dit « gna gna gna, machin, nan, nan ». Et là, non seulement vous allez gérer ce contentieux, mais en plus, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement, c'est cette personne qui s'est en fait cogné la porte, cogné le nez, enfin qui s'est pris une porte, quoi, qui s'est un peu cogné sur l'expérience de la vie, que cette personne, non seulement vous allez l'aider à résoudre son conflit avec son client, mais en plus, vous allez vachement plus facilement lui vendre le fameux contrat qui fait que cette situation ne se reproduira plus. Et donc, c'est toute la question du persona. Hein. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas, dans l'épisode, mon premier épisode solo, tout votre travail de persona et pour construire votre offre, c'est de comprendre en fait qui est la cible la plus mûre quand est-ce qu'il faut parler à vos clients ? Et en fait, peut-être qu'il faut non pas chercher à éduquer tout un marché à l'importance d'avoir des contrats, mais qu'il faut surtout s'adresser aux gens, les récupérer, que le moment où il y a une accroche de ces personnes-là, c'est quand ils ont leur premier conflit avec un client et que du coup, ils ont besoin de résoudre ce problème et que là, vous allez pouvoir faire votre première présentation comme avocat en droit commercial et fidéliser votre client en lui proposant un contrat et en créant une relation de confiance qui fait que demain, il prendra le réflexe de vous appeler pour ses autres opérations, quand il déploiera son business en développant d'autres offres pour ajuster les contrats, etc. etc. Et donc, si on en revient à cette histoire de dur, douloureux, urgent, reconnu, voilà, en fait, le moment dur pour votre client et le moment où il est prêt à se mettre en recherche d'un avocat en droit commercial et à payer un avocat en droit commercial, ben en fait, c'est pas en prévention quand il est dans d'autres trucs et qu'il se dit non mais ça va, je vais bidouiller mon contrat moi-même ou un devis avec trois mentions, ça va suffire. C'est le moment où en fait, il a perdu je sais pas combien dans un conflit avec un client, que ce soit parce que quand bien même il aurait récupéré l'argent grâce à l'intervention de l'avocat, il a quand même dû payer l'avocat. Et que du coup, chat échaudé craint l'eau chaude. Et là, il est prêt à faire cet investissement-là. Mais qu'avant, il n'aurait juste pas été prêt et ce n'était pas une cible. C'est une offre qui est intéressante. Hein, et moi, je comprends que vous ayez envie de la vendre parce que je comprends que vous ayez envie d'être le partenaire stratégique de vos clients dès le démarrage de leur aventure entrepreneuriale, etc. etc. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le moment qui déclenche réellement le recours à un avocat. Et je vous ai dit que je vous broderai ça avec l'exemple d'Iris et Thémis. L'exemple d'Iris et Thémis, c'est exactement, cette problématique, on la rencontre. Parce que, avant de vous dire ça, ce que je voulais vous dire, c'est que une offre, vous allez vous dire, oui, mais mon offre, en quoi elle est nécessairement différente de celle de quelqu'un d'autre ? En fait, on s'en fiche que votre offre soit différente de celle de quelqu'un d'autre. Ce qui nous intéresse, c'est que votre offre, elle soit pertinente par rapport au problème d'une personne. Et peut-être que vous avez, entre guillemets, des différences. Ces différences, ça peut être dans le pricing, c'est-à-dire le prix. Ça peut être dans le degré d'intervention que j'évoquais tout à l'heure, pardon. J'ai lu OK. Ça peut être dans... vous avez une expertise sectorielle qui fait que vous faites telle opération mais vous connaissez très bien tel secteur et donc du coup je sais pas, c'est une différence qui est à mettre en avant. Ça c'est plein d'exemples de différences. Une différence, ça peut aussi être dans la manière dont vous faites les choses. Je sais pas, moi, peut-être que vous êtes particulièrement digitalisé et que donc votre client, il a un portail client sur lequel il peut retrouver toute la documentation, ce qui en fait d'une certaine manière le délègue une partie de son travail de secrétariat et de rangement de sa documentation. Peut-être que voilà, comme vous êtes digitalisé, il n'y a pas le moins de signatures possible qui soit en physique. Voilà, ça c'est une chose qui peut être différenciante, mais peut-être que c'est autre chose. Peut-être que votre différenciation, c'est que vous faites tout en remote ou que au contraire vous voyez encore vos clients. Il y a plein de choses possibles. Mais en tout cas, le sujet, c'est moins d'être différent que de proposer la bonne solution aux bonnes personnes et qu'il y a un clic qui se fasse entre votre offre et la personne qui en a besoin. Et c'est moins une histoire de différence parce que quand vous vous concentrez sur la question de la différence de votre offre, en fait, vous vous concentrez sur la question de... vous êtes concentré plus sur la concurrence. Et la concurrence, j'en ai parlé dans une newsletter récemment, c'est un sujet, c'est vrai. Mais en réalité, souvent, votre prospect, il a pas plusieurs fournisseurs et encore moins tous les fournisseurs et toutes les possibilités de solutions possibles en tête. C'est la raison pour laquelle moi très souvent des non-avocats mais d'ailleurs même des avocats me disent qui est-ce que tu me recommandes pour du droit de la famille, là ça vient de m'arriver, pour tel type de problématique parce que en fait globalement quand bien même ces personnes-là ont identifié qu'elles avaient un problème et qu'il y avait des solutions qui pouvaient être apportées par un avocat, c'est pas pour ça qu'elles ont en tête tous les avocats qu'elles peuvent solliciter et que tout ça est très clair pour elles. Mais en fait, il suffit que elles aient le contact, enfin qu'elles aient la connaissance ou le contact d'un avocat qui répondent parfaitement à leurs besoins. Et en fait, il suffit de ça pour que ça résolve le problème. Après, et ça c'est comme dans la vraie vie, pour un avocat ou pour d'autres, vous avez des profils qui adorent benchmarker les fournisseurs et avoir plusieurs propositions d'intervention avant de se décider. Mon mec est comme ça. J'ai un autre ami qui est comme ça. Voilà. Avant d'acheter le moindre truc, il va faire 1000 recherches sur Internet, il va comparer les avis, il va comparer les fonctionnalités, il va tout, enfin voilà, il va tout comparer. Puis ensuite, il va prendre une décision. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je déteste, j'aurais jamais pu être acheteuse. Je déteste benchmarker, je déteste demander des devis, je déteste comparer les devis, je déteste ça. Donc, j'ai beaucoup plus tendance à, quand j'ai identifié quelqu'un qui répond à mon problème et qui m'a l'air, qui m'inspire confiance en termes de compétences, à juste dire, OK, go, je travaille avec toi. Donc ça c'est voilà, vous avez de tout hein, en termes de personnalité de profil. Mais dans l'absolu, c'est encore une fois la question c'est moins celle de la différence que la question de la pertinence entre votre offre et votre cible. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça c'est un peu le cas de figure typique des marchés matures dans lesquels en fait la solution est mature et bien évidemment on peut il y a toujours matière à innover un petit peu faire des micro-variations peut-être dans le comment on fait peut-être dans le pricing peut-être dans plein de choses mais en tout cas le problème il est mature. Je vous reprendrai et c'est le cas de beaucoup de services d'avocats. C'est-à-dire que par exemple je reprends l'exemple du divorce. Voilà, un divorce, c'est un divorce. Alors, il y a eu à un moment une innovation qui fait que ça introduit une innovation, hein, qui est le divorce par consentement mutuel. J'imagine que quand c'était pas possible de faire un divorce par consentement mutuel, ou en tout cas qu'il n'y avait pas un régime légal spécifique à ce type de divorce, c'est une offre qui n'existait pas ou qui existait, parce que j'imagine quand même qu'il y avait des couples qui étaient d'accord sur leur manière de se séparer avant l'exercice du divorce par consentement mutuel. Mais donc voilà, vous avez des innovations législatives et réglementaires ou d'autres choses qui peuvent justifier la création d'une offre nouvelle, de quelque chose de nouveau et d'innovant. Aussi par le biais de la créativité de certains avocats. Je sais pas moi, juste avant d'enregistrer cette interview, j'ai échangé avec un client de Iris et Témis en droit social, dont on va bientôt publier l'offre, et qui a développé une expertise très forte en droit collectif et qui intervient souvent dans des contextes sociaux assez musclés, complexes et musclés. Et il m'expliquait que, par exemple, il avait développé avec un client tout un processus d'accompagnement après une grève qui avait été hyper impactante. Ils ont développé tout un truc. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose qu'il a fait avec ce client et qui pourrait adapté pour d'autres clients, voire packagé. Et voilà, et par peut-être sa créativité dans la manière de concevoir ces situations et de les adresser, peut-être qu'il a créé une offre nouvelle. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont des choses qui sont hyper matures, hyper classiques. Et en fait, l'innovation, ça va être dans les outils éventuellement et tout. Mais voilà, il n'y a pas non plus 15 000 manières de faire les choses. Je reprends l'exemple du divorce, c'est le cas. Voilà, il y a un divorce, et puis en fait, vous êtes je ne sais pas combien d'avocats à proposer des divorces. Ce qui n'est pas un problème, parce qu'il y a aussi énormément de divorces. Donc en fait, a priori aussi, quand un marché est mature, ce n'est pas qu'un mauvais signe. C'est aussi un signe que, en fait, si le marché est mature, c'est que globalement, il y a pas mal de besoins, quoi. Sauf si c'est un marché qui est en fin de vie. on va dire, au classique, vous allez être plutôt sur s'il y a beaucoup d'offres, c'est aussi qu'il y a beaucoup de besoins, donc a priori, allez-y. Bah, en tout cas, ça ne doit pas vous restreindre d'y aller. Et la question, c'est juste comment est-ce que vous allez créer ce clic entre votre manière de présenter les choses et la personne qui en a besoin. Pourquoi j'ai voulu vous dire ça avant de vous présenter, nous, notre réflexion avec Iris et Tamis ? Parce que c'est vrai qu'avec Iris et Tamis, pour le coup, j'ai eu l'idée, et c'est ce qu'on a poursuivi ensemble ensuite, de créer quelque chose qui n'existait pas sur le marché des avocats. C'est-à-dire que ce qui existait sur le marché, c'était les plateformes de diffusion et de mise en relation, enfin voilà, les plateformes de diffusion d'offres de recrutement classiques, Village de la Justice, Law Profiler, avec des offres entre guillemets assez lambda, sans travail particulier fait sur la marque employeur, etc., qui étaient diffusées. Donc il y avait cette option-là, avec un certain pricing. Entre 180 ou 200 euros et un peu plus, on va dire, si vous rajoutez des options pour être mis en avant, en haut de la page, en rouge, en machin, en truc. Et puis ensuite, l'autre option, à l'autre extrême, qui est l'intervention d'un cabinet de recrutement, d'un cabinet de chasse de tête, avec un variable qui va entre 15 et 25% de la rémunération de la personne recrutée, ce qui fait que globalement, votre recrutement, il va rarement être en dessous de... vous en avez rarement en dessous de 5 000, 6 000, là je parle pour les rétrocessions en dehors de Paris, pour des juniors, et ça peut monter plus haut, 10 000, 15 000, 20 000 et plus, pour des recrutements sur des profils ou plus seniors ou plus complexes, et puis notamment à Paris. Mais vous voyez bien que globalement, entre 300 euros et 6 000 euros, y avait un énorme trou. Donc nous, on s'est posé la question de construire une offre pour adresser ce sujet du recrutement, mais qui soit une offre qui soit intermédiaire, qu'on puisse trouver, on va dire, une solution intermédiaire là-dessus. Et puis, au-delà de cette histoire de pricing, on avait aussi identifié qu'il n'y avait pas de solution. Enfin, je veux dire, il y a des solutions de marque employeur, évidemment, parce qu'en fait, toute communication RH, et au-delà de la communication RH, toute action RH faite dans un cabinet d'avocats est une action qui vise à adresser un problème de marque employeur. Un cabinet, je ne sais pas moi, qui aurait une mauvaise réputation sur le marché, ou pas un cabinet, mais dans ce cabinet, une équipe qui aurait une mauvaise réputation sur le marché, cette équipe, parmi les solutions de marque employeur, vous en avez plusieurs, et idéalement d'ailleurs, le cabinet travaille sur toutes, vous avez, et l'équipe travaille sur toutes, vous avez la question de, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe, et là c'est de l'audit RH pour voir globalement comment est-ce que vous allez adresser ce sujet, quelles sont les modifications à faire, que ce soit en termes managérial, en termes de qualité de vie au travail, en termes de rémunération, en termes de rythme, en termes de plein de choses. Et puis derrière, donc ça déjà c'est un sujet, parce que si vous vous adressez ce problème, déjà les personnes qui sont dans l'équipe, elles vont pouvoir un petit peu mieux parler de leur expérience, donc vous êtes déjà en train d'agir sur la marque employeur. Et puis derrière, vous avez des sujets de communication sur les réseaux sociaux, de communication auprès de certains réseaux ciblés, etc. Et puis Iris et Tamis fait partie, on va dire, des solutions de mise en avant de la marque employeur, dans le sens où, quand vous avez une offre sur une page recruteur sur Iris et Tamis, vous vous présentez auprès des candidats, vous leur expliquez qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quel est votre parcours, comment vous vous êtes construit, que des choses qui contribuent à la marque employeur. Vous bénéficiez de l'image de marque d'Iris et Tamis, et puis il y a aussi les témoignages positifs collaborateurs, puisqu'on fait une modération sur le positif, pour des raisons que j'avais expliquées dans la newsletter et puis sur les réseaux aussi. Parce que globalement, ça rassure de savoir que vous avez des personnes qui ont travaillé dans votre équipe et qui disent que vous êtes sympa, vous êtes pédagogue, ça se passe plutôt comme ci, plutôt comme ça, que vos dossiers sont intéressants, pour dire un peu qui vous êtes, comment vous êtes, et rassurer sur le fait que vous n'êtes pas un fou furieux qui envoie des codes à figure de ses collaborateurs. Donc on est une solution de marque employeur parmi d'autres, mais quand bien même le sujet de la marque employeur soit un sujet hyper trendy, dans dans les écoles d'avocats, vous avez formation continue sur la marque employeur, dans les écoles d'avocats, mais les syndicats, la CE a fait des trucs sur la marque employeur, d'autres font les barreaux, les organismes de formation importants font des choses sur la marque employeur. Enfin, je veux dire, c'est un peu le mot qui est à la bouche de beaucoup de monde, la marque employeur aujourd'hui, chez les avocats, pas que, mais chez les avocats en particulier. Quand bien même c'est un mot qui est à la mode, est-ce que le fait d'avoir une bonne marque employeur est un sujet dur, douloureux, urgent, reconnu ? Eh bien, personnellement, je n'en suis pas sûre. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que les cabinets et les équipes soient arrivés au stade où ils investissent exclusivement pour leur marque employeur. Peut-être certains, une part entre guillemets marginale et sur certaines initiatives particulières, mais en fait c'est une question. Est-ce que c'est le cas? Et c'est une hypothèse qu'on pose. Nous, avec Iris et Thémis, on sait qu'on est à la fois une solution de recrutement, dans le sens où on augmente les chances de recruter. On sait qu'on est à la fois une solution de recrutement et à la fois une solution de marque employeur, et puis on voit, on va dire, ce qui transforme, ce qui marche. Pour le moment, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai jamais voulu être que un truc de com RH, mais aussi être un site de diffusion d'offres de recrutement, nos clients, ils viennent, bien évidemment, il y a tout ce qu'on apporte de différent avec Iris et Thémis dans notre manière de faire, le shooting, la manière de rédiger les offres, notre communication, notre image de marque, tout ça qui fait que, voilà, les témoignages collaborateurs, notre manière de fonctionner. Mais le vrai premier truc que nos clients viennent chercher, c'est nous, c'est de diffuser leur offre de recrutement. C'est le truc qui fait que ils tergiversent pas pendant 6 mois avant de nous prendre une offre. Là, vous avez un problème qui est dur, douloureux, urgent, reconnu, qui est dur dans le sens où il est douloureux parce que c'est douloureux pour eux de ne pas réussir à recruter avec les canaux qu'ils ont utilisés jusqu'à maintenant. C'est urgent parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre 1000 ans avant de, effectivement, avoir quelqu'un qui arrive en interne. Et c'est reconnu dans le sens où ils savent qu'ils n'arrivent pas à recruter ou qu'ils n'ont pas réussi à recruter. Ils savent que c'est urgent, ils savent qu'il faut absolument qu'ils recrutent parce qu'ils sont dans un goulot d'étranglement pas possible en termes de charge de travail, ou parce que dans 3 semaines, il y a le collaborateur qui a démissionné qui s'en va, et donc en fait, dans 3 semaines, ils ont un poste non remplacé, et ça va déteindre. Enfin, du coup, cette charge de travail va être reportée ou sur eux s'ils n'avaient qu'un seul collaborateur, ou sur eux plus leur équipe, et que ça risque, qui est souvent déjà chargé d'ailleurs, et que du coup, ça risque de déséquilibrer tout le monde. Et donc en fait, le problème, il est dur, et là, ils sont prêts à tester une solution qu'ils n'ont jamais testée avant, qui est le cas d'Iris et Thémis, et à investir, à dépenser de l'argent pour avancer dans leurs problèmes de recrutement et voir si ça marche et s'ils reçoivent des candidatures. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce truc dur et aussi sur le fait de faire attention à vous de votre côté, pas vous lancer dans le fait de chercher à vendre des choses qui sont pas recherchées par votre cible, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, si je vends de la marque employeur à des gens qui trouvent ça très sympa, mais qui en fait, là avant tout, et ce pourquoi ils mettent leur budget RH, c'est dans la diffusion d'une offre ou dans le prix d'un chasseur, parce qu'en fait, ils ont surtout et avant tout besoin d'avoir quelqu'un qui arrive, mais globalement, je vais chercher à vendre quelque chose un petit peu à côté de ce pourquoi mon client, quand bien même il est conscient qu'il a un sujet de marque employeur, parce que s'il n'avait pas de sujet de marque employeur, il recevrait des candidatures spontanées sans l'aide de personne, en tout cas, il serait prêt à mettre de l'argent dessus. Et ça m'amène à une chose, c'est que globalement, votre offre, c'est votre offre. Et donc, ça inclut tout ça. Mais il y a du test and learn, et c'est là-dessus que je voulais vous amener. Il y a du test and learn à faire énormément autour de votre offre, parce que globalement, elle va se vendre bien, votre offre, à partir du moment où le contenu est le bon, c'est-à-dire que ce que vous incluez comme service, ce que vous faites pour votre client, c'est ce qu'il a besoin que vous fassiez pour lui, le prix est le bon prix, vous avez trouvé la manière de communiquer sur votre offre qui fait que ça fonctionne, qui fait que ça fait clic avec votre audience, cette communication, vous mettez la bonne communication en face de la bonne audience, parce que à deux audiences différentes, et ben en fait c'est pas la même communication qui va faire clic. Y a des arguments qui vont fonctionner avec certains, qui vont pas fonctionner avec d'autres. Il y a des mots clés qui vont rentrer en résonance avec une certaine audience et qui vont pas rentrer en résonance avec une autre audience. Ça va un petit peu avec mettre les bons mots auprès de la bonne audience. Vous utilisez les bons canaux d'acquisition, c'est-à-dire que pour toucher, vous avez identifié quels sont les canaux. Quels sont les endroits où vous devez être pour toucher l'audience qui va être touchée par votre message sur votre offre dont le contenu est le bon contenu, ok ? Et en fait, une offre qui ne se vend pas, il peut y avoir un problème sur chacun de ces points. C'est-à-dire que ça peut tant être un problème de c'est pas le bon contenu, c'est pas ce dont j'ai besoin, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'attends en termes de format, c'est exactement ce que je veux, je suis exactement la cible, mais le prix ne me correspond pas, qu'un problème de communication, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait le bon contenu et ce serait le bon prix, c'est juste que la communication fait que la cible qui pourrait cliquer avec votre offre, le clic ne se fait pas, qu'un problème d'audience, c'est-à-dire que la communication est bonne, mais elle serait bonne pour quelqu'un d'autre, pour une autre audience, et les personnes à qui vous parlez, il faudrait un autre type de communication, qu'un sujet de canaux d'acquisition, c'est-à-dire que c'est bon, vous avez l'audience, vous avez la communication, vous avez le prix, vous avez le contenu, mais vous n'avez pas encore bien identifié où est-ce que vous devez être pour que cette communication, enfin pour que le clic se fasse. Et votre test and learn, il peut être sur chacun de ces 1, 2, 3, 4, 5 points. Chacun de ces 5 points, en réalité. Et c'est ce qui est difficile, parce que parfois, on se dit, en fait, ça ne marche pas. Alors qu'on a juste testé un contenu avec un prix, avec une communication, avec une audience, avec un canal d'acquisition, et qu'on n'a pas cherché à faire bouger les choses. Et on a ni varié sur le contenu, ni varié sur le prix, ni varié sur la communication, ni varié sur l'audience, ni varié sur le canal d'acquisition. Et vous avez, oui, j'insiste là-dessus encore une fois, vous avez du test and learn à faire autour de ces sujets. Et c'est normal, en fait. Et je voulais vous rassurer là-dessus. En fait, votre travail d'entrepreneuriat, et c'est pour ça que vous prenez un risque quand vous êtes avocat et que vous vous lancez à votre compte, ou quand vous êtes avocat et que vous développez votre clientèle, à partir du moment où vous faites des actions sans certitude de résultat, vous êtes en train de prendre un risque. C'est en fait votre risque, il est là, il est dans le fait que vous ne prendriez aucun risque entrepreneurial si vous aviez tout de suite le bon contenu pour le bon prix, à la bonne communication, à la bonne audience, pour le canal d'acquisition. Votre risque entrepreneurial, il est dans le fait que vous allez avoir un petit travail à faire pour trouver l'alignement des étoiles absolument parfait entre ces différentes compositions de votre offre. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. En plus du côté, en réalité, une offre qui marche, vous le savez parce que ça fait clic, et quand ça fait clic, globalement, c'est quand vous avez plus de problèmes pour rentrer des clients et pour convertir ces clients, etc., etc. Et je vous dis ça typiquement parce que on avait cette discussion avec mon associé Déborah. Mais aussi d'ailleurs avec Alexandre qui est aussi associé dans Isetemis. Donc on avait cette discussion, on était tous les trois à l'avoir la question de il faut convaincre les avocats que c'est important qu'ils travaillent sur leur marque employeur, c'est important qu'ils travaillent sur leur marque employeur avant d'avoir besoin de recruter, c'est un travail sur le long terme, il faut prévenir plutôt que guérir, etc., etc. Et nous, on fait partie des solutions de marque employeur. Et en fait, à un moment, j'ai pris un pas de recul et j'ai dit, mais en fait, il y a une chose qui est de tester, on va dire, notre offre sur la base du message marque employeur, mais par contre on convaincra personne, c'est-à-dire que globalement on teste, mais si ça prend pas, c'est pas nécessairement que le besoin n'est pas là, c'est juste que c'est pas là où les gens veulent allouer leur thune. Et en fait, s'ils préfèrent payer très cher un chasseur parce que ils travaillent pas leur marque employeur, mais que quand ils ont besoin de recruter par contre ils sont dans la panade, ou payer moyennement cher Iris et Témis parce que ben voilà, à ce moment-là, ils se disent, au moment où ils recrutent, ils se disent, bah en fait, oui, j'ai besoin de travailler ma marque, j'ai besoin d'avoir un truc qui soit quali en termes de marque employeur. Et ben so be it. Et du coup, notre discours, il est un peu sur la marque employeur, mais il est surtout sur autre chose. Et surtout, il est surtout sur le fait qu'on ait une solution de recrutement. Parce que au bout d'un moment, bah en fait, vous êtes pas là pour convaincre les gens. Vous êtes là pour trouver le bon message qui fait que la personne, elle dit, mais c'est ça dont j'ai besoin et j'en ai besoin maintenant et ça va résoudre mon problème qui est le problème pour lequel je suis prêt à lâcher de l'argent. Et voilà. Donc, juste à tirer votre... Enfin, voilà, c'était cette réflexion qu'on a eue entre associés et je me suis dit, et je pense que j'en ai parlé à des clients d'en développer sa clientèle récemment et je me suis dit, c'est un point qui est hyper important parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on est tellement amoureux de ce qu'on fait, on aime tellement ce qu'on fait et puis en plus on investit du temps dans le fait de développer quelque chose, une solution, une offre, même si c'est pas une offre innovante, vous développez du temps pour voilà, et on a des idées et parfois on a des idées d'innovation, mais en fait on est tellement amoureux de ce truc qu'on se dit mais ça changerait la vie des gens on veut chercher mille manières de leur faire acheter ce truc alors qu'en fait c'est pas le truc qu'ils veulent acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est pas le truc qu'ils sont prêts à acheter. Et c'est pas un problème de prix, et c'est pas un problème de communication, et c'est pas un problème de tout ça. C'est juste que c'est pas là où ils vont allouer leur argent, et en fait, il faut l'accepter. J'ai plein de problèmes pour lesquels je suis pas prête à dépenser de l'argent. Et c'est OK, en fait. Et je suis prête à dépenser de l'argent pour résoudre d'autres problèmes. Et en fait, du coup, les personnes dont je suis cliente, ben, c'est les personnes qui m'ont chopé sur les problèmes pour lesquels je suis prête à dépenser de l'argent. Voilà. Et je voudrais juste vous donner quelques exemples et puis ensuite j'arrête là parce qu'il va falloir que je parte parce que j'ai une interview. Faut que je me rende en interview. L'exemple, c'est typiquement, on en discutait encore sur ces sujets de ressources humaines avec mon amie Alice Maudret, qui est la psychologue business des avocats, que j'adore et que j'embrasse. Et elle disait que, pendant un moment, je pense qu'elle m'en voudra pas de partager ça avec vous, elle avait testé toute une offre et toute une communication autour d'accompagnement sur des sujets qui sont liés à la prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, le management, la qualité managériale dans les cabinets, etc. Elle me dit, mais oui, tout le monde trouve ça génial ce que je raconte. Quand je suis en rendez-vous avec des personnes, tout le monde me dit, mais oui, c'est trop bien, machin, non, c'est trop bien, mais en fait, personne n'achète. Par contre, à partir du moment où elle a commencé à se repositionner sur des sujets développement de business pour avocat, son offre a fait clic et puis en fait là elles ont des clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et ça c'est pas nouveau et ça surprendra personne parmi vous, ça veut juste dire que les avocats sont et pourtant on sait qu'il y a des problèmes de management dans les cabinets d'avocats et pourtant on sait qu'il y a des problèmes de risques psychosociaux dans les cabinets d'avocats, mais en fait la majorité des cabinets d'avocats ne sont pas prêts à investir de l'argent pour aller adresser ces sujets-là. Par contre, ils sont toujours prêts à investir de l'argent pour avoir plus de chiffre d'affaires, plus de clients, générer plus d'argent. Et en fait, elle pouvait continuer à s'évertuer, à vendre des trucs, des services sur la prévention des RPS, sur la qualité de vie au travail, sur l'accompagnement au management, etc. etc. Mais en fait, c'est pas ça qui faisait clic avec l'audience. Donc, elle s'est repositionnée et elle a développé une nouvelle offre. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que cette offre lui plaît et qu'elle s'éclate et que c'est trop cool. Et en fait, c'est ça le sweet spot que vous voulez réussir à atteindre avec votre offre. Pour revenir sur cette question de d'investissement dans des sujets managériaux versus des sujets de développement business, ça me fait penser à une avocate que je connais, que je ne citerai pas évidemment, et je savais qu'elle se faisait coacher. Et puis c'était un peu une première expérience managériale pour elle avec une jeune collaboratrice, une avocate middle senior. Puis je prends des nouvelles d'elle, il se trouve que c'est une collaboratrice, enfin c'est moi qui avais fait la mise en relation entre elles deux pour le recrutement, et puis elle me parle un peu d'un coup de mou dans la relation avec sa collaboratrice, où elle la sent elle la sent un peu moins engagée. Bon, bref, et puis elle était un peu en mode pire, c'est pas très grave, ça s'arrête là, ça aurait été bien pendant je sais pas combien de temps, et puis tant pis, on va recruter quelqu'un d'autre et tout. Puis je la questionne et je lui dis, bah attends, c'est quand même dommage, c'est compliqué de recruter dans ta matière, ça a hyper bien fonctionné au démarrage, t'en étais hyper contente et tout. Bon, là, vous avez un coup de mou, mais ça se trouve, ça se trouve, c'est un passage, il faut juste avoir une discussion et puis ça va repartir et vous allez reconstruire sur la base de ce coup de mou dans votre relation et tout. Je lui dis, et je savais qu'elle se faisait coacher par quelqu'un qui peut travailler, je savais qu'elle se faisait coacher. Je lui dis, est-ce que t'en as parlé au coach? Et elle me dit, bah non, parce que c'est vrai que comme je prépare mon installation avec mon coach, je préfère le temps que je passe avec mon coach, je le passe plutôt à travailler sur le développement de ma clientèle plutôt qu'à le travailler sur l'amélioration de mon management, enfin là, le fait de gérer cette solution managériale. Et comme c'est une personne avec qui on avait beaucoup parlé de management, et je lui avais dit, tu vois, tu tombes dans le travers longtemps décrié qui est que finalement tu priorises toujours le biz par rapport au management alors que tes valeurs affichées c'est autre chose et puis qu'en plus en réalité c'est court-termiste parce que t'as tout à gagner à faire en sorte que à faire en sorte de pas avoir à recruter quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à galérer à recruter si tu galères, potentiellement à payer un chasseur, la diffusion d'offres, etc. Plus le désengagement de ta collaboratrice le temps du préavis, plus l'arrivée de la personne. Enfin voilà, en fait, si tu règles ce problème managérial et que tu arrives à donner un second souffle à cette relation qui s'est un petit peu fragilisée, c'est du chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas que c'est du chiffre d'affaires que t'as pas à aller chercher, mais en tout cas, c'est des charges en moins à court terme si jamais ça fonctionne. Je rigole en y repensant, en faisant le parallèle avec Alice et son offre autour de la prévention des risques psychosociaux et de la formation au management, où ça faisait pas clic et tout le monde trouvait ça très intéressant, mais en fait, ça transformait pas. Les accompagnements sur et le coaching sur des sujets pour le coup avisés de développement de chiffre d'affaires et de développement de business, là pour le coup il y a du monde au balcon. Bref, donc je voulais vous dire ça terminer sur une chose qui est que du coup, dans tout ce travail autour de votre offre, de conceptualisation de votre offre, de test and learn autour de votre offre et tout, ça peut faire qu'à un moment, vous vous rendez compte que la bonne offre, que ce soit pour répondre idéalement aux problèmes d'un client ou que ce soit par rapport à une forme de demande qui existe, cette offre-là est à un certain prix et tout ça, et dans une certaine configuration. En fait, cette offre, elle ne vous convient pas. Je vous donne un exemple que moi j'ai expérimenté avec Fleur d'Avocat, c'est justement en termes de communication sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'observe, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles développer sa clientèle, même si j'ai des clients qui sont hyper contents et tout, moi j'ai une espèce de frustration, et d'un autre côté je veux pas l'adresser, c'est que en fait sur la première partie du programme qui est la partie vraiment positionnement, c'est-à-dire quelle est mon offre, sur quoi je me positionne et quelle est l'audience que je vais cibler en premier ou que je dois cibler si j'ai un petit peu d'expérience et que je connais bien le persona, on peut tout de suite affiner, mais en tout cas vraiment cet aspect conceptualisation de l'offre et définition du positionnement, je sens que j'ai une valeur ajoutée de dingue et que mes clients en ressortent avec une clarté en termes de vision stratégique et de déploiement et tout ça qui est hyper puissante. Mais en fait, le deuxième stade, qui est le stade de maintenant qu'on a trouvé son positionnement et qu'on sait quelle est l'offre qu'on va aller chercher à vendre, maintenant il faut que j'enchaîne, que j'aille mettre cette offre sous le nez de cette cible et donc que je réseaute, je réseaute en physique et sur les réseaux. Donc ça veut dire que je réseaute, c'est-à-dire que j'aille déjeuner avec plein de monde dans des cocktails, trucs, des machins, je communique sur les réseaux sociaux j'écrive à balle sur mon site internet pour avoir un site hyper bien référencé, parce que je vais surtout miser sur une stratégie de référencement naturel. bref, autour de ces sujets-là, sur la partie vraiment déploiement et notamment sur les réseaux sociaux, en fait, il faut vachement coller au cul des clients. C'est-à-dire que quand bien même ils ont compris la théorie du truc, quand bien même on a fait une liste de sujets sur lesquels ils peuvent communiquer, etc., etc., le passage à l'action de vraiment je rédige un projet de post et je le mets en ligne, ça demande de vachement, vachement, vachement être derrière eux. Et là, de passer en mode tous les jours, coucou, où est votre poste? Et toi, Micheline, attends, ça fait 3 jours que tu m'as rien sorti, où est-ce que t'en es? Et tout, faut vraiment aller les chercher par la peau des fesses pour qu'ils fassent ce passage à l'action. Et j'espère que mes clients qui m'écoutent savent que je dis ça avec toute la bienveillance du monde. Et je le comprends, hein, le fait d'avoir besoin d'avoir quelqu'un qui nous colle au cul pour faire quelque chose qu'on a peur de faire et qu'on ne sait pas faire. Et du coup, pour toutes ces raisons, on n'a pas l'habitude de le faire, on est mal à l'aise. Et donc, en fait, le passage à l'action, il est hyper difficile. Moi, j'avoue, autant la première partie de brainstorming et tout machin, elle me va, autant j'avoue que courir après mes clients et vraiment être derrière eux de façon hyper rapprochée sur cette question de est-ce qu'ils ont fait leur draft, est-ce que je peux le relire pour le corriger, et ensuite, une fois qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont publié, parce qu'ensuite vous avez des clients qui ne publient pas ce que vous avez travaillé ensemble, ce qui est le truc le plus frustrant du monde, même si ça leur appartient, ça me va pas. Et je sais qu'il y a des créateurs de contenu et des formateurs qui ont conçu leur offre autour de ça et qui ont fait un super travail. Je pense là à une jeune femme qui cartonne elle cartonne et à juste titre, parce que je pense que son offre est vraiment la bonne, qui s'appelle Laurie Bemer, je sais pas comment ça se prononce, et sa petite marque personnelle c'est la meuf en rouge, et que je salue, elle a conceptualisé son offre autour de vraiment présence sur les réseaux sociaux, et résultat, en plus du contenu de comment vous publiez sur les réseaux sociaux, etc., etc., les templates, tout ce qu'elle fournit, Laurie Bemer, elle a réuni une team de coachs qui vont faire ce suivi, rapprocher des clients pour savoir où est-ce qu'ils en sont du poste, où est-ce qu'ils en sont du challenge du jour, où est-ce qu'ils en sont de l'action à faire du jour, et s'assurer que en fait les gens font ce passage à l'action. Et moi j'avoue, j'ai pas du tout envie de faire ça, parce que une de mes grandes révélations de ces 18 derniers mois, on va dire, c'est que j'avoue que le community management, vraiment gérer les communautés, c'est pas mon fort. Je suis très bonne dans les relations en one-on-one, pour creuser en profondeur avec mes clients, pour faire en sorte que le positionnement soit le bon, que la voix soit la bonne, que le truc soit bon. Et voilà, ça c'est mon truc et tout. Mais par contre, en fait, vraiment gérer, animer une communauté, faire en sorte que la communauté soit active, toute cette gestion-là, pour le coup, ça me draine un max, mais un max de max de max. Et ça m'a vachement décomplexée, parce qu'un marketeur et formateur aussi, et consultant dont je suis le travail, qui s'appelle Louis Grenier, que j'adore et que je salue ici aussi, il l'a dit dans son podcast, en fait, il a dit qu'il s'était rendu compte qu'en fait, les aspects cohortes, le fait de travailler en cohorte, de gérer des cohortes, d'organiser des cohortes avec d'autres prestataires qui viennent en renfort pour gérer certains trucs et tout, qu'en fait, c'était pas son truc non plus. Et du coup, il a restructuré son offre pour ne plus travailler en cohorte. Et maintenant, il fait des consultations en one-on-one avec différents formats. Et puis, ce qu'il a gardé en collectif, c'est pas vraiment du... De temps en temps, il fait des workshops collectifs en présentiel, donc c'est une journée de travail à plusieurs, mais voilà. Mais en tout cas, l'aspect vraiment formation, cohorte, avec du digital et tout, il a arrêté parce qu'en fait, ça lui pesait. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans tout ce travail, et ça fait aussi partie de votre parcours entrepreneurial, bien évidemment, je vous souhaite de conceptualiser dès le démarrage une offre qui est la bonne offre pour la bonne cible et tout de suite trouver le bon message et les bons canaux. Et que en plus, le fait de faire ça, que la manière dont cette offre doit être faite pour être optimale, ça vous corresponde à 200%. Et que c'est exactement la manière dont vous voulez travailler, dont vous aimez travailler, et c'est tout ce que je vous souhaite. Il est aussi possible, et c'est même fort probable, que en réalité, vous deviez ajuster et potentiellement même ajuster le contenu de votre offre. Et si vous ne devez pas ajuster, en tout cas que vous ayez des modifications où il y a les deux questions qui se posent, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce qui clique avec mon offre, comment je trouve une offre qui clique avec ma cible, avec mon audience, et à la fois comment est-ce que je trouve une offre qui clique avec moi, avec mon lifestyle, avec qui je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, avec comment j'aime travailler et avec comment j'ai envie de travailler avec mes clients et qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de me structurer d'une façon qui me convient. Voilà, c'est à peu près pour wrap-up, pour clôturer là-dessus, c'est ce que je voulais vous dire. Toute cette réflexion autour de l'offre, bien évidemment, hein, ça match avec des réflexions qu'on a eues et qu'on a encore dans Iris et Témis parce que on est encore largement dans du test and learn dans ce qu'on fait. On a des super résultats aujourd'hui pour nos clients. D'ailleurs, je trouve qu'on a trouvé à la fois une audience de clientèle et à la fois des résultats pour nos clients de façon assez rapide, franchement, parce qu'on en a eu dès le démarrage. La première offre qu'on a diffusée, qui était celle pour Claire Prunier, elle a trouvé preneur tout de suite, alors que le site était déglingue et tout ça. Enfin, je veux dire, vraiment, pour le coup, on a eu des clients rapidement et on a eu des résultats pour nos clients rapidement. Il y a encore du test and learn sur plein d'autres choses. Je vous partage cette réflexion puisqu'on en a une récemment autour du sujet de qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qui fait clic avec nos clients. Et donc vous aussi, posez-vous la question de qu'est-ce qui fait clic avec vos clients. Voilà, je ne vous prends pas plus de temps, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode solo. Et la semaine prochaine, attendez, je vais regarder qui c'est la semaine prochaine. Tac, tac, tac. La semaine prochaine, ce sera la diffusion d'une interview d'une avocate marseillaise. C'était très cool. Fait partie de ces avocats de province que le fait de vivre en province n'a pas empêché de développer une offre et un positionnement hyper précis, hyper ciblé et très spécialisé. Vous verrez. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.